Deuxième partie, chapitre 1. Depuis 2 ans, non loin du jardin d'hiver, la pharmacie du Chapeau Rouge s'était créée une clientèle solide. Elle n'avait rien de particulier dans ses apparences extérieures, mais il y régnait une ambiance agréable. Il n'y avait pas là cette froideur distante souvent affichés par des gens qui se rengorgent derrière leur science ou savent qu'ils auront constitué leur fortune en peu de temps. Les deux blouses blanches n'étaient pas des machines à interpréter des ordonnances, à coller les vignettes de sécu. Là, on était reçus avec bienveillance et affabilité. La pharmacienne s'était déjà faite une réputation de femme généreuse, qui comprenait toutes les situations. Très vite, elle avait entendu bien des confidences, savait le détail des vies pauvres ou aisées, mais restait d'une discrétion à toute épreuve, et quand les conversations venaient sur elle, on n'y manageait pas les éloges. Et puis, c'était une enfant du pays. Dans toute petite ville méfiante, ce qui d'abord attire puis surtout rassure les clients à l'égard de leur pharmacienne, c'est lorsque beaucoup d'entre eux l'ont connue comme enfant. Elle avait été copine à l'école des Lilas puis au lycée Gambetta. Elle avait mené ses études avec une passion, un sérieux, un calme que tout le monde avait admiré. Elle était sortie d'une famille peu glorieuse, la pauvre gosse. Et les petites gens avaient depuis longtemps loué son courage, sans la moindre faille, son intelligence aussi claire que ses yeux. La nouvelle pharmacienne était une grande jeune femme, réservée, d'une bonté comme on n'en fait plus, d'une simplicité qui n'étonnait pas. Sa réussite personnelle avait rejailli sur sa famille. Sa mère en était devenue aimable, son père parlait d'elle à tous les coins de rue, et dès qu'on confondait en félicitations devant lui, il distribuait les rires d'une vanité bien excusable. Il avait cessé de boire, s'essayait à la dignité, avait troqué sa vieille guimbarde contre une voiture à peu près correcte, et parlait souvent de sa Nicole en disant qu'il n'avait jamais désespéré de la voir aller loin. Car Nicole Ancel était allée loin et vite en besogne. Dès la fin de sa première C, elle avait obtenu, avec dérogation, soutenu par tous ses professeurs, un prestigieux bac scientifique après quelques leçons de philosophie. Depuis sa rencontre étrange avec Charles Gibou, elle avait vécu dans les livres, tout à ses études. Son éclat sentimental et le désespoir qui suivit furent les catalyseurs de ses exploits intellectuels. Par compensation, elle se jeta dans le travail à la façon des Don Juan déçus ou fatigués, qui se plongent dans un désert pour y prier dans l'attente d'une canonisation. Impressionnée par le premier laurier de leur fille, malgré leurs défauts voyants, les parents, elle, avaient accepté le sacrifice terrible de se serrer la ceinture jusqu'au dernier cran. Le professeur de physique de Nicole était venu les voir pour les pousser à faire à la petite les études qu'elle voudrait. D'abord, ils avaient protesté de leur misère, que déjà ils étaient désassistés de la ville, que contraints de vivre que de pommes de terre, bientôt ils n'auraient plus un croûton à tremper de leur panade. « Mais, monsieur le professeur, avait dit Ferdinand, il faudrait que cette petite se place tout de suite, parce que, vous comprenez, pour ce qui est de la faire aller plus loin, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas prendre des risques. Je sais pas si vous voyez. Avec ça, qu'elle n'aura pas fini de nous empoisonner la vie, avait ajouté Madame Ancel en surimpression. Mais si, avait répondu le physicien, vous avez un moyen, comme vous dites. De Dieu, on faudrait bien savoir quoi, renvoyèrent en chœur les parents. Pas quoi, reprit le petit prof à lunettes, mais qui, votre moyen, c'est votre fille. Têtu, le petit homme un peu boiteux, mais sûr de lui jusqu'aux oreilles, résista aux tergiversations, aux pièges, aux plaintes, aux pleurs. Ferdinand Ansel obtiendrait sûrement une bourse de la ville dont il était un des employés. Il fallait inscrire Nicole en faculté et sans tarder. Son prof de physique, ceux de maths et de sciences naturelles, la suivraient et l'aideraient de leurs conseils, par admiration pour elle, et gratis, dernier argument qui fut décisif. Nicole entra en faculté, empocha sans broncher ses premières unités de valeur, partout au premier rang. Curieuse de chimie, elle se décida pour les études de pharmacie, qu'elle traversa comme une brillante comète, emportant des pluies de réussite dans sa trame. Munie de son diplôme, et sachant qu'elle trouvait à s'installer tôt ou tard à son compte, ici ou ailleurs, Nicole Ansel fut immédiatement embauchée comme seconde à la pharmacie du Tourniquet, la plus vieille de la région, dans le grand boulevard Dissolier. Un ménage encore jeune y avait conservé tous les anciens pots en porcelaine, les globes à sirop avec leur transparence bleue, framboises, miel, les lambris de chêne, les armoires vitrées, un lavabo de cuivre, une haute caisse à guichet. Nicole suggéra d'ajouter l'homéopathie et les tisanes, les vieux baumes, qu'elle ressuscita dans le bonheur de recettes toujours à repenser et pleines de succès, si bien qu'on finit par s'adresser plus à elle qu'au patron. Ils en éprouvaient rapidement de l'aigreur. Outre cela, Nicole avait acquis la parfaite maturité dans sa beauté, sa voix chaude et enveloppante, sa stature de déesse, son visage à la Botticelli. Madame Péchaud, la pharmacienne, avait cru saisir dans les yeux de son mari quelques sentiments à raviver. Femme, elle aussi, Nicole vit qu'elle ne resterait pas longtemps seconde et qu'il fallait prendre une décision déchirante, se lancer encore dans les risques. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de faire des études. Il fallait trouver un espace aménageable, obtenir l'autorisation d'ouvrir une troisième pharmacie dans la ville, étudier un quartier, une concurrence, un financement. Mais quand elle osa parler de son problème devant ses parents, ils levèrent les bras au ciel, lancèrent cris et soupirs. Il faudrait de nouveau se mettre la tringle. Ils lui avaient tout sacrifié. Ils ne le regrettaient pas, mais elle ne pouvait rien leur demander de plus. Comme tant d'autres fois, Nicole était rentrée dans sa chambre, celle du 51 rue des Lilas, avec son lit au carré et son image du Sacré-Cœur. Seule sa bibliothèque avait pris des proportions nouvelles, voire encombrantes. Elle s'étendit sur sa couverture grise, pensa, et dans le noir de ses yeux fermés, elle aperçut soudain un souvenir qui lui sembla revenir du fond des âges. L'image de Monsieur Gibou. Oui, elle était en classe de première à cette époque, 8 ans déjà, mais l'image d'Irénée ne l'avait jamais quittée. Elle sentit que ce soir-là, elle ne travaillerait pas. Elle se releva pour se déshabiller, alla machinalement vers son miroir, remarqua que ses yeux étaient très rouges et que de nouveau ses joues étaient trempées de larmes. Pendant 8 années, elle n'avait pas trouvé le temps de pleurer, mais à cet instant, elle s'en donnait le luxe. Troublée, elle se coucha paisiblement, accompagnée de l'idée soudaine de retourner au cabinet des frères Labiche, avec l'assurance de ne pas y récolter une autre gifle. Le lendemain, elle sonna, debout sur le paillasson où elle avait ramassé sa première expérience. Elle consulta, proposa, on l'écouta. Les frères Lafriche, bien que vieux déjà, avaient gardé le sens des affaires juteuses. Outre le flair qui fait qu'un seul regard sur un visage ouvre le livre comptable de l'avenir. 3 semaines plus tard, au deuxième rendez-vous de la friche, Nicole Ancel recevait une proposition de financement, un grand et beau local à équiper. Vous vous souvenez certainement, mademoiselle, de l'ancienne épicerie du Chapeau Rouge. On lui offrait une étude de marché, l'autorisation départementale d'avoir une 3e pharmacie, un plan comptable, et elle était stupéfaite que ces 2 hommes, trognons archaïques de la vieille école, aient eu un tel sens de l'efficacité. Elle signa. Au moment de quitter les 2 livres, frère, elle eut comme une inspiration. Excusez-moi, je vous prie, je suis peut-être indiscrète. Mais non, mademoiselle, dites. Eh bien, voilà. N'avez-vous pas un chef comptable ou un employé? Oh, je ne sais pas comment dire. Bref, n'avez-vous pas dans vos bureaux Monsieur Charles Gibou? Ah, non, 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 je suis désolé, mademoiselle. Mais si, dit l'autre frère Lafriche. Voyons, Camille, mais si. Mademoiselle, oh, bon, ça remonte à loin. Oh, ça fait plusieurs années. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, bien sûr, Charles Gibou. Voyons, voyons. Eh bien, revient à la mémoire que, brusquement, il a disparu. Enfin, je veux dire qu'il n'est plus revenu au cabinet, mais nous n'avons jamais su pourquoi. Oui, eh bien, bizarre, n'est-ce pas? Un jour, 2 gendarmes ont sonné pour nous dire qu'on le cherchait. Ensuite, un huissier est venu nous demander des renseignements à son sujet, puis plus rien. Mais vous le connaissez, semble-t-il. Fortement choquée, Nicole eut du mal à reprendre. Non, pas vraiment, un peu, comme ça. Ah, vous n'aviez aucune parenté avec lui. Oh non, pas du tout. C'était par simple curiosité. Voudriez-vous, chère mademoiselle, que nous entreprenions de nouvelles recherches? Tout bon cabinet, comptable, des agents bien renseignés, vous savez. Oh, je n'en doute pas, à constater votre vitesse de décision. Soyez sûre, mademoiselle, que cela ne nous dérangerait pas du tout, car nous aimons beaucoup son travail si sérieux, honnête, efficace. Dans ce cas, et si nous arrivons à le retrouver enfin, la vive inquiétude que nous avons d'ailleurs éprouvée. Non, non, je vous remercie de votre gentillesse. Il s'agissait pour moi d'un souvenir que j'aurais, mais aujourd'hui il est devenu sans importance. Au revoir, messieurs. Nicole, bouche amère et cœur près de défaillir, fut tentée qu'on lui retrouvât Charles Gibou, même à l'autre bout du monde. Elle abandonna les frères interloqués et repartit pour rejoindre l'appartement de ses parents. Ainsi donc, Charles Gibou, Irénée, s'en était allé bien loin ce soir-là, quand elle avait tant couru pour le rattraper. Il ne lui restait dès lors qu'un nouveau désespoir encore, plus infini que le premier qu'elle avait éprouvé durant sa jeunesse folle. Et revenait en elle un sentiment indéfinissable d'avoir perdu ce même soir ce qu'il y avait en elle de plus pur, de plus beau, de plus élevé, éthéré, le désir d'aimer. Il lui sembla que la vie de son cœur et de son corps était à jamais brisée. Concentrée sur ses pensées, elle marcha d'un pas lent, traînée, déchirée et tout entière de se revoir dans ce passé qui lui avait donné quelques instants de rêve et qui lui avait tant arraché d'un seul coup. Elle avait subitement senti l'effet d'un coup de foudre pour un homme qu'elle ne connaissait pas, et cet homme avait été comme volatilisé sans qu'elle en comprît les raisons. Au milieu des milliers d'images du film de sa vie, la photo incertaine de Charles était passée, arrêtée quelques vingtièmes de seconde dans le projecteur, et les griffes impitoyables de la machine l'avaient emportée comme tant d'autres pour créer l'illusion d'optique. Devant son immeuble, il n'y avait plus ce gravier de jadis. La municipalité avait fait installer des jardinières bourrées de géraniums et de pensées. Le cadre de cette rencontre absurde était plongé lui aussi dans les ténèbres de son histoire. Il ne restait à Nicole que l'aube obscure d'un avenir qu'elle ne cherchait pas à distinguer. Pendant ses études, elle avait très souvent repensé à cet homme. La vision qu'elle en avait conservée était idéalisée comme en un médaillon repris dans un grenier. Elle aurait pu vivre pour la nécessité de vivre. Certes, des étudiants, facilement amoureux d'elle, lui avaient déclaré des passions définitives, des sentiments et le désir sincère de bâtir une vie avec elle. Mais Nicole appartenait à cette race qui choisit, refuse de se laisser conduire jeunette, et elle avait un premier pas pour tenter une existence. C'était un coup de tête, et Nicole était obstinée. Elle avait été une poétesse, et écrivant un éternel sonnet sur le fantasme d'un passant. Si elle le rencontrait de nouveau au croisement d'une rue, elle lui dirait « Vous vous souvenez ? Ben c'est moi. Oh, vous m'avez si vite oublié. Vous avez cru qu'on pouvait quitter le regard d'une jeune fille, et surtout celui de Nicole, sans lui dire pourquoi ? Mais quand elle l'aime, c'est à la vie, à la mort. Alors on y va, à l'une ou à l'autre, mais il faut choisir. Moi, la fuite ne connaît pas. Sur le paillasson des frères Lafriche, j'ai récolté mes premiers fruits de ma passion. Et vous ?
Somme toute, cette ville était comme les autres. Elle avait ses laideurs, son éclat, ses secrets, la palette générale des habitants, des miséreux, des comptables, des pharmaciens, des adolescents rêveurs et des femmes jalouses. Mais ce que ne savent pas assez les femmes jalouses, c'est qu'elles sont à l'origine de nos plus belles civilisations. Elles nous ont tout donné, les guerres, les contes de fées, les beaux-arts, la gastronomie, l'étiquette, les parfums et la cosmétique, la drogue et le suicide, les feux d'artifice, le goût de l'aventure et de l'invention, le vin, la fuite en avant, le plaisir et la torture. Une femme jalouse garde son homme à la maison, surveille ses allées et venues. Il faut par conséquent qu'elle l'occupe, et le bon moyen consiste à le transformer en bricoleur. D'où le dit mari n'a plus qu'une ressource pour épanouir les doux trésors de son imagination, l'invention. C'est ainsi que des maris claustrés ont inventé toutes les machines, entre autres celles qui équipent les maisons à cuire, à laver, à essorer, à repasser, à calculer, à chauffer, à décaper, à coller, à percer, à café, à peindre, à écrire, à tout faire, même à rentrer et à sortir. Tous les hommes qui présentent leurs travaux au concours Lépine sont accompagnés d'une femme dont l'œil vise le pauvre inventeur et montre une attitude de tigresse au plus petit faux pas du héros. La remarque s'applique aux cuisiniers qui vivent au goulag des femmes jalouses. Charles Gibou avait eu le malheur indicible de ne pas savoir bricoler. Juliette en était devenue trois fois plus suspicieuse et il avait eu la fuite comme ultime échappée. Un peu après la sortie sud de la ville, un panonceau donne une indication peu visible, les Essarts. On emprunte une route dite « sans issue », mais prolongé par un petit chemin de terre qui serpente jusqu'à un bois de quelques hectares qui avait jadis appartenu à M. Bourneval-Juvin, un éleveur qui avait décidé de changer d'horizon et de faire fortune sous les tropiques. Souvent absent pour l'exploitation de plantations d'ébène et de cajou en Guinée, il laissait à l'abandon une belle maison de maître située en plein centre de ce bois des Essarts. Quand il revenait dans sa propriété, il constatait les dégâts, réduisait d'une nouvelle pièce la partie habitable, ne le réparait jamais. D'ailleurs, il semblait ne revenir au pays que par principe, passait quelques jours dans ces ruines hantées par les hiboux, où nombre de cambrioleurs avaient procédé à main déménagement fort intéressant. Cette bâtisse avait dû posséder un certain cachet, mais déjà au début du siècle, il était devenu difficile d'en juger. En 1923, on sut que M. Bourneval-Juvin ne reviendrait plus. Un Guinéen, encore jeune, du nom de Nwendagodo, se présenta devant les élus de la mairie, flanqué de trois femmes et d'une dizaine d'enfants. Il tenait en main un testament qu'il faisait héritier des Essarts. Après formalité, il entra dans ce qu'il est convenu de nommer les meubles. On le voyait de plus en plus en ville, où il vendait au marché des bricoles de rotin, des statuettes qu'il sculptait dans les bois de rampe ou de lambris jadis luxueux, des légumes qu'il faisait pousser dans des carrés dispersés au milieu de sous-bois éclaircis. Au marché, on l'appela Dogo, puis Dago, puis Dagobert, car les places publiques n'oublient ni l'histoire, ni l'humour simple et facile. Et les Essarts devinrent ainsi le quartier du nègre. Dagobert occupa d'abord ce qui restait de la maison, mais très vite les murs s'entourèrent de cabanes, toutes en planches assemblées de guingois, plaquées ou recouvertes de tôles ondulées et mouillées. Y vinrent de vieilles ferrailles, des caisses, des tas de fripes. Les cases se multiplièrent jusqu'à se faire habiter par quelques gens de toutes sortes, plus ou moins clochards ou aventuriers, au point que les années passant, voire les décennies, un petit bidonville s'installa au bois des Essarts. La municipalité eut des inquiétudes, peu fondées à vrai dire, mais comme il n'y avait ni délits ni crimes avérés, on laissa faire. Dagobert y menait une police redoutable avec ses fils puis ses petits-fils. Ses enfants avaient ouvert des commerces ambulants, mais Dagobert, ne voulant aucun démêlé avec le fisc, les administrations fermèrent les yeux. En outre, Dagobert était serviable, gentil, souriant pour tout le monde. Tout noir, on le connaissait comme le loup blanc. De cette période qui nous occupe, il y avait 10 ans que Charles Gibou était arrivé au quartier du Nègre. Sur le marché, Charles avait souvent eu de longues conversations avec Dagobert. Il lui avait acheté des masques, des paniers, des légumes. Un samedi au marché, Dagobert, voyant Charles enfiler dans son cabas une botte de poireaux, lui avait dit « Tu as des mains de malheureux, mon père !»« Mais à quoi voyez-vous ça ?» avait répondu Charles, fort surpris. « C'est une science que j'ai rapportée d'Afrique. Mon cher Dagobert, si vous êtes bien savant, et qu'après tout, vous n'avez pas tort. Tu sauras que je me trompe jamais, mon père. » Charles était reparti troublé jusqu'au fond de l'âme. Il s'était bien gardé de dire à Juliette cette curieuse remarque. Et puis, avec les jours et les mois, il n'y repensa plus. Mais Dagobert lui sembla soudain une valeur sûre. Si l'on ne pouvait rien lui cacher apparemment, il était peut-être de bons conseils dans certaines circonstances. Il fallut sa fuite, son désespoir et son égarement pour que revint en lui ce souvenir de Dagobert. Sans hésiter, il partit pour retrouver cet homme dans l'intention de lui demander conseil. Il arriva la nuit tombée et rencontra enfin le magicien, déjà bien vieux, fumant une cigarette roulée à la militaire. « Tu as quitté ta femme ?» dit Dagobert pour l'accueillir. « Non, 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 dit Charles, cette fois vous faites erreur. C'est elle qui m'a chassé presque à coups de pied dans le derrière. Elle est jalouse et elle croit que j'ai une maîtresse. Et comme t'as pas de maîtresse parce que ça a été écrit dans tes yeux, t'es un imbécile. Mais, allez ici, t'es chez toi. Parle plus de ça. Ici, t'auras toutes les femmes que tu voudras, des jeunes et même des vieilles. Sont les plus habiles. T'en vois une, tu lui dis viens. « Oh, viens, sans poser des questions. Allez, assieds-toi, mange la soupe et là-bas, derrière, il y a une petite case et un lit pour toi. » Dagobert éclata d'un rire franc et complice. Charles ne savait trop regarder ni comment réagir, mais il était si fatigué, si perdu de cette soudaine situation qu'il s'assit à la droite de Dagobert sans penser à ôter son manteau ni son béret. Il mangea la soupe, but un coup de rouge, et quand Dagobert lui demanda de rôter, Charles ne savait plus comment s'y prendre. On fit ensemble des exercices, et Dagobert dit en riant, « C'est le malheur qui m'a donné tous mes enfants. T'es plus bien jeune, je suis déjà vieux, bien vieux. T'as vu tout le blanc qu'il y a sur ma tête, tu es mon fils, voilà. » « Mais, souffla Charles, « Tu es mon fils !» répéta Dagobert. « T'es chez toi, il n'y a plus que la borne pour nous séparer. Allez, va te coucher maintenant !» Décontenancé mais émerveillé qu'on put trouver sur terre des gens aussi bons, aussi simples, aussi gais, malgré l'aspect misérable de leur intérieur, il se leva, dit bonsoir à Dagobert, qui le conduisit dans une pièce délabrée, lui montra un lit passable, elle lui donna des couvertures. Charles s'enroula dans son manteau, son béret et ses couvertures, sans se demander s'il nourrirait des puces. Il était épuisé des 2 jours démentiels qu'il venait de vivre. « Je vais prier pour toi le bon Dieu, » dit Dagobert. « Oh oui, j'en ai bien besoin. » « Demain, » reprit Dagobert, « tu connaîtras ta mère et tous tes frères. Tu verras que la maison est bonne et la soupe est sur le feu.
Merci, Dagobert.
Quand Dagobert eut refermé doucement le semblant de porte, Charles essaya de songer à son état, mais tout s'embrouillait dans sa pauvre tête, et il s'endormit comme tombe un couperet de guillotine. Dès le lendemain, il connut tout le petit monde des Essarts, devint très rapidement hirsute, râpé, méconnaissable. En ville, on le chercha sur la demande de Juliette, mais en vain. Des gendarmes vinrent aux Essarts qui questionnèrent Dagobert.
Et celui-là ? Demanda le chef.
Oh, c'est mon fils, mon capitaine.
Mais il est blanc,
pour le gendarme à le grader.
Parfois ça arrive, dit Dagobert. Il est mérinos.
Ah, vous voulez dire albinos ?
Oh là, albinos, mérinos, c'est la même chose, mon capitaine.
Mais quand il fallut trouver les papiers du difis albinos, Dagobert jura qu'il les avait perdus, qu'ils étaient bien aux Essarts, mais qu'on les retrouverait. On aimait bien Dagobert, on le savait honnête, on avait du respect pour son âge. Les gendarmes ne voulurent pas fouiller trop et s'en retournèrent après un petit coup de rhum de vrai. Et Charles, qui avait commencé à se faire gaiement à cette vie nouvelle, continua ses petits travaux sans qu'on agitât encore la question des papiers. Il était aux multiples jardins, travaillait à couper du bois de chauffe, s'était mis à rouler et canonnait comme un sapeur. Même s'il était désormais impossible de le reconnaître, il ne sortit plus des Essarts où il avait fini par se mijoter une existence tranquille. Il parlait peu, sauf avec Dagobert, était à moitié animiste ou mécréant selon les heures, faisait de longues siestes et quand le temps était à la pluie ou au froid, il sculptait lui aussi, tournait des pots, aidait les femmes à carder, recopitanait, tressait, et souvent écoutait cette Afrique lui apprendre la philosophie et le bon sens des peuples. Il ne parlait plus qu'un idiome mêlé de bamikleke, de zoulou et de français, prononcé à l'africaine, avec des accents parfois compréhensibles pour le seul monde des Essarts. Il avait une longue barbe, presque rousse, des réactions lentes, des mains calleuses et un regard de sage. Sans qu'il demandât rien, une petite fille de Dagobert venait parfois lui jouer de cet instrument qu'on ne sait bien pratiquer que sous les tropiques, lui tenir chaud ou lui enseigner quelques trouvailles relatives au papayoulélé. Les choses de la comptabilité ne le regardèrent pas plus que celles de la civilisation. Les chiffres et le cœur à la tomate disparurent de son horizon. Le paradis terrestre était arrivé. Le souvenir de Juliette s'enfonça dans l'opacité des brumes et les branches augustes du bois des Essarts. Le jeune et beau docteur Lebaudet, Christophe de son prénom, généraliste de surcroît, avait ouvert un cabinet dans le quartier du Chapeau Rouge. Il était parisien et n'avait guère trouvé d'autre solution que de s'exiler en province. Quand Nicole Ancel avait créé sa pharmacie, il exerçait depuis 3 ans mais n'avait pas obtenu la clientèle qu'il espérait. Certes, il vivait. Malheureusement pour lui, c'était un homme réservé qui ne faisait pas de bruit dans la ville. Il ne s'était pas présenté aux diverses élections, alors que pour un médecin, la propagande politique ouvre les premiers sentiers de la gloire et peut conduire au grand cirque du Palais Bourbon. Christophe Lebaudet avait rencontré Nicole dès les premiers temps qui suivirent l'ouverture de la pharmacie du Chapeau Rouge.
Médecin, il ne pouvait ignorer une collègue de l'art. Dans la profession, on est entre soi, qu'on le veuille ou non. L'un prescrit, l'autre vend, mais le médecin peut insensiblement peser dans les balances. Et chez un pharmacien, surtout une pharmacienne, certains commentaires en sourdine peuvent couler un cabinet. Pour commencer, notre docteur attendit. Il fallait tâter les intentions et le comportement de la nouvelle. Pendant ses échanges secrets avec tel patient, il essayait. « Oh, vous irez peut-être au tourniquet. »« Oh non, j'irai voir Mademoiselle Ancel. Oh, c'est bien les médicaments qui me vont. Elle me conseille aussi. Et puis elle me fait cadeau de quelques tisanes qui me calment. Oh, je vais mieux à la selle. Je fais mon cadran et j'ai plus d'hémoglobines. Vous comprenez ce que je veux dire, docteur ?»« Oui, bien sûr, mais au tourniquet. »« Non, 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 je vais chez Mademoiselle Ancel, au chapeau rouge. » « Oh, je l'ai bien connue, enfant. Elle est si gentille. Vous voyez, docteur, c'est une jeune femme que vous devriez mieux apprécier. Oh, elle vous donnerait des conseils, même à vous. » Ces remarques répétées auraient pu irriter parfois le docteur, mais comme il était assez intelligent, il retint ses propos et chercha à lier relations d'un peu plus près. Il vint souvent voir la demoiselle. Ancel lui trouva un charme certain et finit par éprouver des sentiments plus précis. Elle était la séduction, la douceur, l'esprit large et fin, la beauté un peu grave, le regard profond. Et comme dans toutes les aventures d'approche, il invita Nicole à dîner à l'auberge du Renard Bleu, où leurs conversations restèrent fort scientifiques et d'une tenue irréprochable. Dans la femme de France, fut-elle de la plus basse roture, il y a de la princesse de Clèves, du moins dans cette retenue qui fait que, si on ne lui déclare aucune flamme, elle ne manifeste en retour que la politesse. L'étiquette de Versailles a fait des héritières jusqu'aux plus humbles chaumines. Nicole n'éprouvait aucune attirance pour ce docteur, et si elle acceptait ses invitations, c'était pour l'unique curiosité de parler médecine. D'ailleurs, elle n'attendait rien d'autre de Christophe Lebaudet, et l'idée que cet homme ait pu être amoureux d'elle ne l'avait même pas effleurée. Or, on les avait vus au Renard Bleu dîner, sourire, et les langues commencèrent à courir au plus de les marier au point de les marier dans un proche avenir. On commenta, on fit des plans. On avait remarqué la main du docteur prendre la main de Mademoiselle Ancel. On n'en disait rien, mais on n'en pensait pas moins. Vous savez, comme ils seraient bien ensemble. Et puis elle a de l'argent, parce que la pharmacie, ça gagne. Bon, mais il doit hésiter à cause de la belle-mère. Ah, celle-là, elle posera des conditions. Enfin, le maire ne boit plus, hein, mais il sera difficile de les montrer en haut du pavé. Oh, l'avenir du docteur en souffrira s'il fait de la politique. Il va sans dire que, malgré les arrière-pensées du docteur, du côté de Nicole, les ragots se trompaient comme de juste. Mais les rumeurs ont la vie dure. On assura qu'ils avaient couché. Un soir, que le docteur avait fini sur un cognac et invité Nicole à monter dans sa voiture, on ne sut plus où donner de la supposition. « Vous pensez bien, madame, un cognac et le velours d'une place à la droite du conducteur en province, ça fait du bruit. » Nicole, loin de subodorer ses placotages, eut malgré tout la puce à l'oreille lorsque madame Dieudonné, très vaguement parente de son père, l'avertit indirectement de ce qu'on disait de la pharmacienne et du docteur. « Alors, tu penses que tu vas être heureuse ?»« Comment ça, heureuse, madame Dieudonné ?»« Allô, ma fille, y a rien de mal. »« Rien de mal à quoi ?
Et que voulez-vous dire, Madame Dieudonné?
Enfin, tout le monde sait bien, moins bien que toi, sans doute. On en parle, et ben, c'est une bonne affaire, enfin, je veux le croire.
Je vous assure, Madame Dieudonné, que je ne comprends pas de quoi vous êtes en train de me parler.
Oui, tu as raison de t'en défendre. Ces choses-là, il faut les cacher pour avoir le temps de se préparer, de prendre ses dispositions. Tu n'as jamais beaucoup parlé, et t'as bien fait, ma grande. Et ta vieille Madame Dieudonné t'approuve. Allons, je te laisse à cause de mes courses au marché.
Nicole Ancel resta stupéfaite de ce qu'elle venait d'entendre, et après quelques jours de réflexion, elle déduisit qu'il s'agissait tout bonnement des dîners au Homard Bleu. Il y en avait eu 4 ou 5, mais elle fut sûre qu'ils étaient à l'origine de ces bruits. Cela l'inquiéta fort, car pour mettre fin à ce genre de conversation, la patience et la durée sont les seuls remèdes, à la condition qu'il soit encore efficace. Ils n'empêchèrent pas Nicole de se tourmenter.
Peut-être était-ce aussi le Baudet qui, de son côté, avait lancé des propos en l'air pour voir les réactions de Nicole.
Il n'aurait pas osé lui faire une déclaration en règle. Qui savait, par hésitation, par calcul, espérait-il qu'elle serait flattée? Elle sortait de rien, lui venait de Paris, d'une famille aisée et sûrement prétentieuse. D'ailleurs, les parents Le Baudet étaient venus voir leur fils et ils avaient toisé les provinciaux. Elle cessa de glisser sur les pentes faciles de la crédulité quand son père lui confirma les bruits. Donc Christophe Le Baudet ne lui plaisait pas. Sa conversation était agréable et il avait des compétences, mais un sentiment naît sur d'autres critères. Elle refusa net une nouvelle invitation quelques jours après les mots de Madame Dieudonné. Le docteur arriva peu après ce refus, juste avant la fermeture de la pharmacie. Nicole Ancel était sur le point de lui refuser toute explication et lui demandait de la laisser fermer, qu'elle était lasse de sa journée, qu'elle avait droit au repos. Sur les insistances du docteur, elle accorda un quart d'heure.
Je me doute, lui dit-elle d'emblée, des motifs de votre visite. J'ai refusé votre invitation et toutes les autres que vous me ferez. Je ne pensais pas que des bruits se répandraient sur nos dîners amicaux. On a voulu y voir je ne sais quel projet secret, que nous aurions par exemple l'idée de nous marier, et même que nous aurions eu des relations plus intimes. Alors je profite de votre présence pour vous assurer que je n'ai aucun désir de me marier, et encore moins avec vous.
Mais Nicole, que vous ai-je fait pour que vous soyez aussi brutale avec moi après les entretiens si sympathiques que nous avons eus ensemble à table ou autrement?
Comment cela autrement?
Oh, ne vous cabrez pas. Par autrement, je voulais faire allusion à ces échanges que nous avons eus ici même, dans votre officine ou dans les réunions que nous avons tenues entre médecins et pharmaciens de notre cité.
Bien, vous voudrez bien à l'avenir ne plus m'appeler Nicole, mais Mademoiselle Ancel, comme tous les gens qui me fréquentent ou viennent à l'office pour l'exécution des ordonnances.
Mais mademoiselle, ne pouvez-vous supporter qu'on éprouve pour vous les sentiments qui n'ont rien de répréhensible?
Éprouvez-les, docteur, mais ne m'en parlez pas. Vous êtes libre de votre cœur, moi du mien. C'est dit.
Refuserez-vous, mademoiselle, que je vous avoue à cette heure l'amour que j'éprouve pour vous? Puis-je vous demander d'y songer sans haine et sans irritation? Vous donnez-vous le droit de m'interdire au moins cette honnête et simple déclaration?
Docteur, je ne vous l'interdis pas. Vous pouvez me déclarer tout ce que vous voudrez. Nos relations d'ordre médical ne changent pas. Je vous respecte et reconnais vos capacités. Vos déclarations et vos sentiments n'affectent pas nos bonnes relations, mais sachez définitivement qu'elles resteront civiles. Chacun chez soi, vous ne manquerez pas de partie. Si je vous avais regardé d'un autre œil, mes mots auraient été plus flous. Alors, veuillez, s'il vous plaît, mettre un terme à cette visite devenue sans objet et me laisser fermer. Bonsoir, docteur. Mademoiselle, docteur, il est passé 8 heures du soir. Soyez obligeant, comme vous savez l'être, et me laissez fermer. Merci.
Le merci de Nicole Ancel avait été appuyé sur un ton qui ne s'ouvrait plus de réplique. Christophe Le Baudet s'inclina et partit sans rien ajouter. Nicole verrouilla la pharmacie, prit congé de sa préparatrice qui avait entendu la conversation puisque la porte du laboratoire était restée ouverte. Elle avait confiance en cette dame sérieuse et réservée, mais irait-elle parler ici et là? Les affaires de Nicole ne s'emporteraient que mieux, et ces rumeurs ridicules auraient un excellent moyen de cesser. Nicole rejoignit le petit appartement de 3 pièces qu'elle avait fait aménager au-dessus de l'officine et qui traduisait la même sobriété que celle de sa chambre chez ses parents. On entrait dans un couloir large. Devant soi, on trouvait la double porte du salon. Quand on allait sur la droite, on trouvait la chambre à coucher. Si l'on prenait à gauche, on trouvait la salle à manger, la cuisine, la salle de bain. Toutes ces pièces étaient contiguës et communiquaient entre elles. 4 grandes fenêtres à petits carreaux donnaient sur la rue du Cadran solaire. Tout était peint en blanc cassé. Les meubles se contentaient d'être nécessaires, blancs aussi dans un style d'une modernité spartiate. Seule la chambre de Nicole revêtait un aspect plus chaud, grâce à une énorme bibliothèque où ne manquaient ni Galien ni Ambroise Paré, où Pierre Loti donnait des ennuis à Rabelais, où Boris Vian exécutait à la guillotine les ordonnances de Fagon. Son lit, en tube laqué de blanc et décoré de pétales métalliques peints en vieux rose, avait un certain charme qui mêlait la jeune fille à la dame solidaire, mais assouplie du siècle passé. Nicole recevait peu, mais régulièrement. Une fois la semaine, ses parents. Une autre fois, une amie d'enfance, avec un mari délicieux et 2 beaux enfants. Elle adorait recevoir son ancien professeur de physique et madame, laquelle était devenue une de ses meilleures amies, malgré la différence d'une génération. Elle vénérait cet ancien professeur à qui elle devait tout. Il était pour elle un savant et un guide, un homme qui ne lui avait jamais rien demandé en échange. Madame Dignac, l'épouse de ce scientifique généreux et plein de drôlerie, était une femme dévouée au malheur des autres, et quand elle vit un jour l'image du Sacré-Cœur au-dessus du lit de Nicole, elle invita Mademoiselle Ancel à faire partie du groupe des Dames du Bon Secours. Ainsi, notre pharmacienne n'œuvrait plus seulement dans le médical. Elle donnait aussi dans la charité, sans chercher le moins possible à en tirer quelque profit de réputation. Elle avait la science généreuse autant que les sentiments.